Vous écoutez
RMC. RMC, Charles Matin.
Toute l'info, toute l'actu en direct, votre journal vous est présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Les recherches suspendues à Baltimore aux États-Unis où les secours redoutent un bilan de 6 morts après l'incroyable effondrement d'un pont et l'avarie d'un porte-conteneur. Les comptes publics dans le rouge, l'heure est à la rigueur, répète le Premier ministre Gabriel Attal que vous entendrez. Et 3 personnes toujours en garde à vue ce matin dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina il y a 6 mois en Alsace.
Et puis y a-t-il un antisémitisme décomplexé dans les facs françaises? 67 actes antisémites recensés depuis le 7 octobre, parfois jusqu'à la violence physique. Le président de l'université de Strasbourg témoigne juste après le journal. Les secours s'attendent à un bilan de 6 morts à Baltimore.
Oui, les recherches ont été suspendues à cause de la météo hier soir dans ce grand port de cette ville américaine au nord de Washington où un cargo donc a percuté et provoqué l'effondrement d'un pont. La faute à un problème de propulsion du navire Alfred Orange, bateau qui avait pourtant été vérifié 2 fois l'année dernière. En fait, tout allait bien jusqu'à hier matin.
D'après ces premiers éléments, c'est une avarie électrique sur le bateau qui a provoqué une perte momentanée de propulsion, faisant dévier le navire. Emporté par son élan et hors de contrôle, ce super conteneur de 300 mètres de long a fini par heurter un pylône du pont qui s'est immédiatement effondré. L'autorité portuaire de Singapour, dont le porte-conteneur est originaire, précise toutefois que l'équipage a eu le temps de sonner l'alerte et a tenté de ralentir en jetant les ancres juste avant l'impact. L'enquête qui débute tout juste a été confiée à l'Agence de la sécurité des transports. Jennifer Omendy est chargée de coordonner le travail des enquêteurs.
Ils vont commencer par collecter des informations sur le fonctionnement du bateau, sur son historique de sécurité, sur les enregistrements de l'équipage avant l'accident, sur le propriétaire du bateau. Tout va être analysé.
Outre le bateau, la composition du pont va aussi être passée au peigne fin. Un travail minutieux qui devrait durer plusieurs semaines.
Le président américain Joe Biden promet de reconstruire le pont, mais prévient que ça va prendre du temps. Et en attendant, eh bien, c'est le 9e port américain qui est à l'arrêt, celui par lequel transite le plus de voitures neuves aux États-Unis, 800 000 rien que l'année dernière. En France, l'heure est à la rigueur. Le mot a été répété hier à l'Assemblée par le Premier ministre Gabriel Attal dans la foulée de l'annonce du déficit plus important que prévu, à 5,5% du PIB en 2023.
Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge, c'est celui du travail. Parce que la réalité, c'est que si nous avions le même taux d'emploi que nos voisins allemands, nous aurions beaucoup moins de problèmes avec nos finances publiques parce que nous aurions des recettes fiscales et sociales plus importantes. C'est ce que nous allons poursuivre avec la réforme de l'assurance chômage, parce que plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de possibilités d'équilibrer nos finances. C'est ça la ligne de mon gouvernement, c'est ce que nous avons poursuivre et j'espère que nous pourrons nous rejoindre sur un certain nombre de points.
Alors depuis hier, les oppositions dénoncent l'échec du gouvernement et refusent, comme le socialiste Olivier Faure, refuse de parler de rigueur.
Quand il parle de rigueur, à qui s'adresse-t-il? Est-ce que vous pensez que ça s'adresse au CAC 40? Est-ce que vous pensez que ça s'adresse à ceux qui font les super profits? Non, il s'adresse en fait aux assurés sociaux, il s'adresse aux chômeurs qui vont encore voir leur droit à l'indemnisation baisser. Je suis pour la rigueur si elle s'adresse à ceux qui en ont les moyens. Malheureusement, je sais ce que ça veut dire dans sa bouche. Dans sa bouche, rigueur, ça veut dire je vais maintenant m'adresser à la classe moyenne, aux classes populaires et leur dire ce sera du sang et des larmes. Toujours pour les mêmes. Et pendant ce temps-là, les autres font la fête à la Bourse de Paris.
À 6h03 sur RMC, ce n'est pas le Far West. Voilà ce que dit le préfet des Alpes-Maritimes qui sera l'invité de RMC ce matin à 8h10. Après une journée marquée à Nice par des rixes entre bandes rivales dans le quartier des Moulins, énième déferlement de violences sur fond de trafic de drogue. Une quarantaine de personnes impliquées dans ces violences et bilan de 4 blessés. 3 personnes sont toujours en garde à vue ce matin dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina, 15 ans. C'était il y a 6 mois sur le chemin de la gare dans le Bas-Rhin. Ce sont les premières gardes à vue dans cette mystérieuse affaire de disparition. Lucille Pascanet, vous êtes à Strasbourg pour RMC.
Ces 3 personnes ont déjà été entendues par les enquêteurs comme simples témoins au début de l'affaire. Hier, après 6 mois d'enquête, les gendarmes ont pointé des incohérences dans leur récit, des détails qui ne collent pas avec leur déclaration initiale. Voilà pourquoi les juges ont décidé de placer en garde à vue ces 3 personnes qui vivent vivent dans la région. Un homme interpellé hier matin chez lui et un couple de septuagénaires convoqués à la gendarmerie. L'objectif des enquêteurs, c'est de tirer au clair ces incohérences. Parmi les amis de Lina, certains étaient sous le choc hier. Ils vivent depuis septembre dernier dans les soupçons généralisés, l'angoisse, l'attente. Depuis 6 mois, tout a changé à peine, me confiait l'un d'eux hier. Alors ils veulent voir dans ces premières gardes à vue une possible avancée, un espoir de voir enfin progresser l'enquête qui leur semblait stagner et de comprendre enfin ce qui a pu arriver à l'adolescente. Les gardes à vue peuvent se prolonger jusqu'à demain matin.
Dans le contexte de la menace terroriste maximale, écoutez ce qui s'est passé hier dans un lycée de Castelnaudary dans l'Aude, où des lycéens ont été barricadés pendant 3 heures, mis en joue même par les forces de l'ordre en raison d'une nouvelle menace visant leur établissement. Menace prise très au sérieux. Racontez-nous ce qui s'est passé, Romain Poiseau.
À 15h30, en pleine récréation, l'alarme du lycée retentit. Robin, 16 ans, et ses amis pensent tout de suite à un exercice.
On est tous allés se réfugier à la vie scolaire et on s'est tous cachés sous les tables. Après, il y en a d'autres qui étaient dans des pièces fermées, mais on était tous au sol.
Signe de confinement.
Ça a duré 3 heures. On a vite compris que c'était pas un exercice, quoi.
3 heures passées sous la table, dans le noir, et des élèves qui paniquent autour de lui.
Arrêtez. C'est pas un exercice.
Il y a une fille qui était en pleurs, donc la panique, quoi. Mais bon, c'est quand même impressionnant.
Impressionnant, surtout quand les gendarmes mettent en joue les élèves au moment de l'évacuation.
Vous allez lever les mains.
La menace, l'alerte à la bombe, venue d'un appel anonyme, a été prise très au sérieux, explique Pierre Barbeau, conseiller municipal en charge de la sécurité à Castelnaudary.
On parlait de possibilité de quelqu'un qui aurait voulu entrer dans le lycée, peut-être armé. Nous n'avons rien trouvé.
Fausse alerte peut-être, mais qui choque encore la maman de Robin, Virginie.
Ça fait peur parce que nous sommes pas en sécurité dans les lycées, mais ça peut être partout, hein, même si c'est un canular.
Un canular peut-être, mais qui a angoissé pendant plusieurs heures des centaines d'élèves et leurs parents.
En parler hier matin à cette heure-ci sur RMC, la proposition de loi pour obliger les lobbyistes à s'inscrire sur un registre de l'influence sous peine de sanctions pénales. Eh bien, les députés ont voté pour, donnant lieu à une passe d'armes d'ailleurs entre majorité et Rassemblement National, avec en toile de fond les liens avec la Russie et les élections européennes. Concernant l'attentat de Moscou, les Russes, via leur puissant FSB, continuent d'accuser l'Ukraine, estimant que les services secrets ukrainiens ont facilité l'attentat qui a fait 139 morts vendredi. Tiens, en pleine guerre, l'Ukraine disputera l'Euro au mois de juin en football. Les Ukrainiens ont décroché un des 3 derniers billets hier soir en battant l'Islande en barrage. La Géorgie et la Pologne se sont aussi qualifiés. Et alors, la Pologne, ça intéresse les Bleus qui ont battu le Chili en amical hier soir. Vous avez vécu ça sur RMC, 3-2, c'était à Marseille. Pourquoi la Pologne? La Pologne a battu le Pays de Galles au tir au but et sera dans le groupe de la France, Maria Azé.
Oui, après les avoir éliminés en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Bleus retrouveront la Pologne de Robert Lewandowski en Allemagne. À 35 ans, l'attaquant du FC Barcelone joue gros. Le capitaine polonais n'a jamais emmené son équipe au-delà des quarts de finale. C'était à l'Euro en 2016. Et ce championnat d'Europe 2024 pourrait être l'une des dernières grande compétition internationale de sa carrière. Après avoir connu 6 sélectionneurs depuis l'été 2018, les Polonais sont sur une bonne dynamique, invaincus depuis 6 matchs et l'arrivée de leur nouveau coach Miral Probierz en septembre. Après l'Autriche à Düsseldorf et les Pays-Bas à Leipzig, c'est donc face à la Pologne que l'équipe de France clôturera sa phase de poule de l'Euro le 25 juin à Dortmund.
Et Didier Deschamps ne saute pas au plafond, c'est ce qu'il a dit hier soir après la victoire face au Chili à Marseille, pas emballé par la performance de son équipe.
Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, ils ont gagné 3-2, c'est bien. Ouais. Il y a eu aussi ces sifflets contre les Parisiens, Mbappé, Colomani,
Mbappé, Colomani, Mbappé.